Vous aimez le partage? Écoutez Bocage.
Bonjour à tous, vous écoutez Radio Bocage, l'émission s'appelle Fréquence Jazz, le jazz raconté par ceux qui le pratiquent. Et aujourd'hui, nous avons dans le studio un invité qui est déjà venu passer nous voir, mais comme il a de multiples casquettes, on a encore des questions à lui poser, parce qu'il est à la fois pédagogue, musicien, il fait plein de belles choses, n'est-ce pas Cindy?
Nous recevons Dominique Mollet aujourd'hui, bonjour Dominique.
Bonjour.
Alors dites-nous, rappelez-nous votre parcours musical s'il vous plaît.
Ah, le parcours musical, rapidement ou... Non, en fait, au départ j'étais autodidacte, hein. J'ai joué de la guitare au collège, au lycée. Avec les copains, et puis j'ai pris des cours plus tard, en fait, parce que j'ai commencé à faire des groupes de rock avec mon frère, notamment, et on faisait tout à la feuille, on repiquait les morceaux des Beatles, de Led Zeppelin, des Who, voilà, les groupes de l'époque, et petit à petit, en écoutant beaucoup de musiques différentes, je suis venu naturellement au jazz. Et là, on m'a refilé une contrebasse dans les mains un soir pour un bœuf. Et je leur ai dit, mais je ne sais pas jouer de ça, moi. Mais si, tu es bassiste, tu vas bien pouvoir jouer de la contrebasse. Donc je me suis lancé, j'ai essayé de jouer les feuilles mortes à la contrebasse. Et puis, je suis tombé amoureux de l'instrument et il ne m'a plus quitté, et c'est après que j'ai pris des cours de perfectionnement, de théorie musicale, etc., d'harmonie, pour compléter un parcours où il y avait quelques lacunes quand même.
Et comment vous avez découvert le jazz alors du coup?
En fait, c'est par le rock, et au départ par Miles Davis, je dirais, qui a fait le lien dans sa carrière entre les chanteurs de rock et le jazz. Il a souvent été en contact et il a souvent imaginé avoir des projets avec des gens qui faisaient du rock, notamment Jimi Hendrix ou Prince. Donc c'est Miles Davis, je dirais, qui a fait le lien. Et puis la musique que j'écoutais, c'était à la fois du jazz et à la fois du rock, ce qui marchait plutôt bien dans les années 80. Donc naturellement, petit à petit, j'ai écouté du jazz un peu plus classique, traditionnel. Mais je suis venu au jazz par le rock.
Et vous jouez du contrebasse, vous avez continué, vous avez joué d'autres instruments?
J'ai commencé par la basse électrique j'ai effectivement lâché un petit peu la basse électrique, mais je la reprends avec plaisir. Donc je joue un peu plus de contrebasse, mais j'ai encore plaisir à jouer de la basse électrique.
Encore. Encore. Et qu'est-ce que vous aimez dans le jazz? Parce que le rock, le jazz, c'est pas tout à fait la même chose.
J'aime bien dans le jazz l'émotion que le rock réussit à nous transmettre, en fait. Je veux dire par là que le swing, c'est une partie du jazz, mais les harmonies, la mélodie, c'est quelque chose qui peut être emprunt aussi aux chanteurs ou aux gens qui font du rock, voire même aux autres styles de musique. Et j'aime bien cette idée-là, moi, que la mélodie, j'étais agréablement surpris quand j'ai connu les Beatles, c'est la capacité à créer des belles harmonies, des mélodies quand j'étais gamin. Et cette idée-là ne m'a jamais quitté. Quand j'écoute un groupe de jazz, je privilégierais plus l'aspect mélodique et harmonique que le swing en lui-même, en fait. Donc, mais ça, c'est un point de vue personnel. C'est parce que j'ai grandi avec des chanteurs, chanteuses, avec cette idée-là. Non pas que le jazz traditionnel n'ait pas de mélodie, c'est pas ce que je veux dire, mais en fait, la tension, l'émotion que les chanteurs de rock arrivent à transmettre dans le rock ou la chanson populaire me semble très intéressante. Et j'aime bien que le jazz emprunte aussi ça au rock.
Et vous êtes musicien en solo ou est-ce que vous jouez dans des groupes, selon des groupes? Parce qu'il me semble que vous jouez dans des groupes, il me semble. N'est-ce pas, Karine?
Oui, 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 bah oui, un contrebassiste, beaucoup de contrebassistes sont des sidemen.
Sidemen.
C'est-à-dire que, ou créateurs, en fait, l'un n'empêche pas l'autre. Mais j'ai été accompagnateur, effectivement, de quelques groupes de jazz. Et actuellement, ben, en fait, les principaux groupes avec lesquels je joue, ce sera le groupe de mon fils, donc Nathan Mollet. Jeune pianiste qui a 19 ans maintenant et avec lequel on a sorti un disque l'année dernière. Donc Nathan est au piano, il compose, je suis à la contrebasse et Elvire Jouve est à la batterie. Donc ça c'est le groupe avec lequel je joue en ce moment, un des groupes. Le deuxième ce sera le quartet de Joël Laforêt. Là aussi, il y a une actualité, puisque le disque est sorti il n'y a pas très longtemps.
Oui, qui s'appelle Blue World.
Blue World, voilà. Et Joël, c'est un ami de longue date, trompettiste de la région de Vichy, qui a fondé ce quartet avec Emmanuel Garoust au piano et Marc Verne à la batterie, et moi-même à la contrebasse. Et en fait, Joël, ça fait de nombreuses années qu'il a été sideman aussi, dans d'autres groupes de la région. Et ça faisait pas mal d'années qu'on lui disait, écoute, tu as des belles compositions, il faudrait que tu fasses ton projet à toi. Ce serait bien. Et donc au bout d'un moment, il a envisagé sérieusement la chose. Et voilà, on a sorti son disque il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps. Voilà.
Et où est-ce que vous jouez?
Alors, avec d'une manière générale ou avec ce groupe
D'une manière générale.
Ben, en fait, on a pas mal de concerts dans la région, en fait, parce qu'il y a des belles salles de spectacle. Dans chaque région française, il y a des belles salles de spectacle. Il n'y a pas que Paris ou, voilà, ou Lyon. Ou
ah ben non,
Marseille.
On a joué celle aussi chez nous. Et...
Voilà, il y a plein de... Et donc, on a plaisir à jouer dans les salles du coin. Il y a la Baie des Singes à Cournon. On va faire un concert au Théâtre de Moulins avec Nathan le 10 décembre prochain. Un concert organisé par le Jazz Club de Moulins. Et donc on est impatients. Mais aussi dans toute la France. Voilà, avec Nathan notamment, on a fait des festivals très intéressants au mois de juillet. Et même un concert à Chypre, sur l'île de Chypre. Il y a un festival de jazz important là-bas. Et on a été contacté par la programmatrice et on était tout surpris, agréablement surpris, mais voilà, on a été jouer à Chypre. C'est un chouette festival parce qu'elle privilégie donc la musique, les groupes européens. Donc elle fait plein de recherches et elle essaie de trouver des jeunes groupes ou des jeunes musiciens voilà, qui n'ont pas forcément une grande expérience. Ce ne sera pas un festival avec des têtes d'affiche. Mais ça va privilégier donc la découverte de nouveaux talents européens. Donc on a été six groupes sur deux soirs et on a fait la connaissance d'autres musiciens comme nous qui venaient du Luxembourg, d'Allemagne, de Grèce, des musiciens chypriotes qui sont d'excellents musiciens. On a découvert des gens avec une technique incroyable et un répertoire vraiment très intéressant. Donc voilà pour l'expérience, c'était vraiment, vraiment très chouette. Il y a eu Jazz à 7 aussi qu'on a fait au mois de juillet. C'est un des lieux les plus agréables parce que c'est un théâtre en plein air qui fait dos à la mer en fait. Donc le public, il y a à peu près 1600 personnes, et le public regarde la scène et derrière il y a la mer, il y a les bateaux qui passent, enfin les mouettes. Donc c'est une des plus belles scènes françaises, il faut reconnaître. Donc voilà, dans la région, mais on fait aussi quelques festivals en France, exceptionnellement à l'étranger.
Voilà. Karen, ça vous dirait un petit concert au bord de la Guy avec eux?
Ah, ben, oui, pourquoi pas. Alors, il faut peut-être préciser que, et on a découvert ça dans notre entretien avec Nathan, que pour participer à certains de ces festivals, Il y a une sorte de compétition et un concours pour être retenu dans certains, pour certains festivals, pour certains concerts.
Oui, en fait, chaque festival a son fonctionnement. Il y a le concours le plus célèbre en France, c'est celui de la Défense, du Festival de la Défense. Il y a un festival avec une vraie programmation. Et puis des groupes qui concourent pour avoir... il y a les prix de composition, le prix de groupe, etc.
Oui, je pense que Nathan a eu plusieurs prix.
Alors, pas à la Défense, mais on a participé à un de ces concours. Parce que comme... en fait, il avait 16 ans, je crois, quand il a participé, il y a 3 ans maintenant. 2 ans, 3 ans, oui. Et donc, moi, je partais du principe que, même si moi, je suis le vieux dans le groupe...
Oui.
Vous faites bien, pourtant.
C'était important de faire découvrir sa musique et de faire une démarche dans ce sens, faire quelques concours. Et on a eu un prix du public au Festival européen d'Avignon. Donc là aussi, on était très, très fiers parce que c'est un concours européen. Donc il y avait des groupes allemands, irlandais, donc diverses nationalités.
Et plusieurs centaines de participants.
Oui, au-delà de 120, je crois. Personnes qui ont postulé, quoi. Donc
oui.
C'est toujours très valorisant. Et,
oui, ça fait, à cause de son âge, quelque part, parce que Nathan est au conservatoire, je me semble.
Il entame sa deuxième année dans un conservatoire.
Donc
à Paris.
Donc il est toujours dans une logique un peu de formation, et son parcours pédagogique, quelque part, justifie de faire ce genre d'exercice.
Oui, oui, oui. Et puis il y a l'aspect, donc c'est... Déjà des créations, des compositions, c'est souvent ce qui est retenu dans les concours. Et puis la jeunesse du garçon, quoi. Mm-hmm. Bien que son contrebassiste soit un petit peu plus âgé, mais ça...
Oui, vous pourriez peut-être nous expliquer, parce que pour les néophytes, la différence entre une basse électrique, ou ce qu'on appelle aussi guitare-basse, et une contrebasse. Le grand machin en bois là derrière lequel vous cachez.
Ouais.
on voit juste la tête.
Ouais. Je dirais que la différence, c'est évidemment le son et je rajouterais le répertoire. Mm-hmm. Parce que bon, la contrebasse, on la connaît, elle a son histoire, c'est le classique, c'est la musique classique.
Hein. Oui.
Elle est venue au jazz qu'en début du 20e siècle. Donc c'est récent dans la musique moderne, la contrebasse. Et la basse électrique encore plus récent, en fait.
Oui.
Mais on associe donc le rock, la chanson, avec la basse électrique, et le classique, le jazz, pour être schématique, avec la contrebasse. Mais maintenant, les frontières sont de plus en plus minces.
Oui, parce qu'il y a des instruments qui ont été développés qui sont, qu'est-ce qu'on peut dire, pas vraiment hybrides, mais il y a eu des instruments qui ont été développés pour explorer un peu les limites entre les deux.
Oui, en fait, et puis les musiciens et les luthiers font plein d'expériences,
oui.
Et souvent très intéressantes, pour enrichir la palette de sons des instruments. Donc il y a des contrebasses à 5 cordes, il y a des basses, j'ai essayé une basse à 7 cordes une fois à Paris. Plus de cordes qu'une guitare.
Oui.
On a l'impression que c'est un concours entre les guitaristes. En fait, il y a plein de possibilités maintenant de diversification du son. On a des basses fretless, c'est-à-dire que c'est des instruments sur le manche où on enlève les petites barres en ferraille et donc ça donne un son.
Sur la guitare basse.
Sur la guitare basse. Qui se rapproche presque de la contrebasse, mais que je trouve encore différent.
Donc, ouais.
Il y a plein d'expériences qui sont faites, qui sont très intéressantes. Et dans le jazz, maintenant, le jazz est tellement, a tellement de sons, d'influences différentes, qu'on n'est pas étonné de voir un bassiste électrique jouer dans un groupe de jazz, maintenant. Et même des contrebassistes qui font du rock... de la musique traditionnelle, enfin, voilà, tout ce beau monde fait des expériences, des échanges, et souvent ça donne des choses intéressantes.
Et le contrebasse, c'est l'instrument, bon, on le classe volontiers dans les instruments d'accompagnement, dans la section rythmique, et pourtant...
Oui, là aussi, ça c'est... au départ, c'était ça, la contrebasse. C'était vraiment l'accompagnement pour...
De rythmique.
Rythmique, ouais. Assurer les fondations, le registre grave de l'orchestre.
Et la fameuse grille.
Oui. Et la fameuse grille de jazz. Et puis, petit à petit, il y a des petits malins qui se sont dit, hein, je vais essayer de jouer un peu plus fort et de prendre un solo. Des petits malins, c'est gentil, hein, ce que je dis. C'est pas...
Oui.
Je les remercie vraiment du fond du cœur.
Parce qu'ils ont pris des risques, quand même. Voilà. Ouais, ils ont pris des risques.
Oui, tout à fait. Et petit à petit, ben, ça a donné naissance à des solos de contrebasse, des contrebasses qui jouaient les thèmes des standards de jazz, etc. Des contrebassistes qui créaient, qui composaient, qui mettaient la contrebasse en avant, un peu en avant. Mmh. Et ben voilà, pour notre plus grand plaisir.
D'accord.
Il y a des contrebassistes actuellement, dans les plus connus, il y a Avishai Cohen. Mmh.
À qui passait, il me semble, assez récemment à Jazz en Tête. Il me semble.
Il est passé, je crois, plusieurs fois à Jazz en Tête.
À Jazz en Tête, et puis à Nevers aussi, de
oui,
Jazz Nevers,
oui,
il
oui.
est passé. Hein.
Je me demande s'il ne va pas passer à Vichy, je crois, à vérifier.
C'est quelqu'un assez connu du grand public,
oui.
Qui va être tête d'affiche.
Donc compositeur, contrebassiste, excellent contrebassiste.
Pianiste aussi, il me
et
semble,
aussi pianiste.
Chanteur.
Oui, chanteur aussi, oui, une très belle voix. Et donc, on a plaisir à écouter ces bassistes qui se mettent un peu devant, quoi. C'est toujours une belle surprise. Souvent une belle surprise, en tout cas.
Et d'autres influences ? Bon, on pense évidemment à l'incontournable et toujours vivant et toujours actif Ron Carter, qui est vraiment une icône des contrebassistes. Mais est-ce qu'il y a d'autres influences en ce qui vous concerne,
il y en a beaucoup en fait. Moi, j'ai pas mal écouté Charlie Haddon, mm-hmm. Dave Holland, d'origine anglaise, mais qui a fait une carrière aux États-Unis, qui a commencé avec Miles Davis.
Oui, Dave Holland, oui, il est très très connu.
J'avais écouté beaucoup le pianiste Bill Evans. Mmh. Qui est accompagné d'un contrebassiste qui avait un jeu tout à fait moderne à l'époque, enfin dans les années 60 sur les enregistrements. Il s'agit de Scott LaFaro, mmh. Malheureusement qui est décédé jeune, mais qui a emprunté qui a mis une empreinte avec son jeu sur divers enregistrements de Bill Evans. Et c'est toujours un plaisir parce que il était vraiment novateur. Il avait un jeu pour l'époque très très moderne et très musical et très, très intéressant. Donc Scott LaFaro a été un de mes grands contrebassistes.
Mais c'est vrai que là, vous parlez d'empreinte, d'influence, d'innovation. C'est le vocabulaire qu'on n'associe pas volontiers à la contrebasse, qui garde cette image de d'instrument d'accompagnement, un peu comme la batterie.
Et qui l'est toujours, d'ailleurs, oui. En fait.
Oui, oui, indispensable.
Oui. Oui, mais c'est un rôle qui est plaisant, en fait, moi, je trouve aussi. C'est vraiment un rôle plaisant de faire une walking de basse sur un standard de jazz en accompagnant soit un chanteur, soit un saxophoniste, soit un pianiste. Il y a une construction continuelle, en fait. On est sans cesse en train d'improviser, c'est assez plaisant, c'est comme un jeu en fait. On a une grille, une harmonie qui est marquée sur une feuille, donc une grille d'accords. Et on doit forcément avoir des notions d'harmonie, sinon on fait n'importe quoi.
Oui.
et donc c'est très plaisant de choisir ses notes, donc à chaque instant, hein, en fonction de l'harmonie d'une part, mais surtout en fonction de ce qui se passe autour. C'est-à-dire que la musique de jazz est d'autant plus belle si les musiciens sont attentifs, mais à chaque seconde, à ce que fait le reste de l'orchestre. Mmh. Sinon, si un groupe de jazz joue devant sa feuille l'harmonie telle qu'elle est, c'est déjà une belle performance, mais ça ne suffira jamais.
Oui. En fait. C'est là où on distingue le musicien amateur et le professionnel, souvent.
Oui, ça peut. Je connais des musiciens dont c'est pas le métier principal qui improvisent.
Oui.
Beaucoup mieux que certains intermittents du spectacle.
mais on ne citera pas de nom pour pas avoir des ennuis. Hein.
Ah non, on ne veut pas. Non.
Alors, expliquez-nous, Dominique, quand vous parlez donc de walking, parce que c'est une particularité de contrebasse. On peut pas, on peut à la limite avec le piano le faire un peu, enfin quelque chose qui ressemble, mais.
Oui, c'est attribué forcément à la contrebasse.
Oui.
Oui, bien sûr. En fait, c'est sur les mesures à quatre temps les plus utilisées dans les standards de jazz. On va faire une note, toutes les pulsations, tous les temps de la mesure, qui en comporte quatre la plupart du temps. Et ces notes régulières, on les compare forcément à une marche. Sur un trottoir ou je sais pas, enfin.
Oui, oui.
Donc, walking bass, c'est très imagé, en fait. On a cette régularité, j'allais dire métronomique, mais le mot convient pas, parce qu'il faut quand même une interprétation, et si on est légèrement à côté, c'est pas très grave. Et c'est le swing qui importe, en fait.
Donc, vous vous promenez le long des cordes,
oui.
Si j'ose dire, en choisissant... Ouais. Les notes dans l'accord.
Voilà. Et cette walking bass est censée aussi donner envie de bouger, quoi, de danser.
Oui, de se lever, de bouger les pieds, ou de taper dans les mains.
Voilà, comme ça.
Donc, c'est vraiment donc le battement de cœur de l'orchestre,
le
contrebasse. Bon, on va justement en écouter un petit peu. Hein, si vous voulez bien, et puis on va en parler. Donc vous avez, comme on veut traditionnellement dans l'émission, choisi deux morceaux de musique à nous faire découvrir. On va découvrir le premier.
Thank you.
Si vous venez nous rejoindre, vous écoutez Radio Bocage, une émission qui s'appelle Fréquence Jazz, animée avec Cindy Kourou, et nous sommes en pleine discussion avec Dominique Mollet. Et on vient d'écouter un morceau qui nous a proposé de découvrir, et il va nous dire un peu plus.
En fait, oui, c'est une composition de Nathan. Hein,
comme par hasard.
Comme par hasard.
Mais on adore.
Oui.
Et en fait, il en parlerait mieux que moi, mais le titre, ça fait référence à un film qui l'avait amusé, c'était Retour vers le futur.
D'accord. Oui.
D'accord.
Et c'était une histoire avec un rendez-vous, mais vraiment très précis, entre une voiture et...
La DeLorean, oui.
Oui, la DeLorean, il fallait qu'à 10h12, elle passe à un certain endroit, je ne sais plus exactement.
Oui, et puis après, il y avait un orage qui devait frapper le tour de la mairie.
Bref.
C'était compliqué.
Retour vers le futur après les 30 ans, je ne sais plus exactement. Ouais. Voilà.
Et là, c'est un morceau qui illustre bien votre propos de tout à l'heure sur... les influences du rock et du jazz, parce que là vous êtes donc vous jouez guitare-basse, c'est ça?
Non, c'est contrebasse sur ce morceau, sur ce morceau aussi.
Mais d'une manière assez rock, on peut dire, style assez rock. Oui. Alors, qui a la batterie?
Toujours Elvire. Elvire
toujours
joue.
Elvire.
D'accord. Voilà.
D'accord, donc c'est le trio. On peut donc c'est un morceau qui est sur le nouveau album.
Oui, il est sur le disque, qui est sorti,
Qui précisez-nous s'appelle.
Alors le disque s'appelle Instant au pluriel.
Et on peut l'acheter sur toutes les plateformes, en streaming, en physique.
Oui, exactement, sur toutes les plateformes habituelles. Et puis, ou sinon, en physique, en passant par le site, site internet de Nathan Mollet Trio, c'est tout simplement nathanmollettrio.com.
D'accord.
Et là, on a toutes les infos
pour
commander le disque.
Pour le commander.
Ouais.
Et je le recommande chaudement. Alors, parlons maintenant de pédagogie. Alors, hors antenne, tout à l'heure, vous avez dit qu'à l'école de musique, là où vous enseignez, l'école de musique de Moulins Communauté, il y a moins d'élèves que par le passé, un peu pour tous les pupitres, non?
Oui.
Pour tous les instruments.
Oui, c'est ça. Et bon, mais en fait, c'est un peu général. J'ai le même son, j'ai les mêmes échos pour d'autres écoles, d'autres écoles de musique. Je pense que c'est dû, de toute façon, au Covid, à la crise du Covid. C'est-à-dire que même si les profs ont continué, certains, à faire des cours en visio, ce qui n'est vraiment pas l'idéal.
Je confirme.
Et on comprend que certains n'aient pas eu envie de de continuer leur cours de cette manière. C'est pas très agréable. Donc on les comprend. Ils ont arrêté. Et parfois, certains ados n'ont pas repris les cours, en fait, après le Covid, comme si ça avait freiné leur enthousiasme. On a le même problème
ont découvert autre chose.
Ou autre chose, peut-être. Mais j'ai entendu dire que c'était un peu le même souci dans les salles de sport, pour certains sports.
Donc, oui, on a un peu le même souci, nous.
Oui, il y a
une fréquentation.
Oui, des gens qui, pendant la crise, on était obligés de changer d'habitude. Et du coup, maintenant, ils sont libres de reprendre... leurs vieilles habitudes, mais ils ont décidé de faire autrement.
Voilà, alors peut-être que maintenant on s'éloigne de cette crise petit à petit, alors peut-être que les choses vont reprendre, mais voilà, pour l'instant on a constaté une baisse de fréquentation, et le département de jazz aussi, on a aussi subi les conséquences.
Oui.
Mais on a toujours un noyau important, de quoi faire fonctionner le département jazz, de toute façon.
Oui, il faut préciser que l'école de musique de Moulins Communauté propose une expérience qu'on peut qualifier d'unique, parce que les ateliers de jazz sont encadrés par des musiciens professionnels comme vous, Bruno Martinez, Chris Chalkley à la batterie, me semble. Et ça, c'est pas le cas de tous les ensembles, les associations qui proposent qui proposent des formations, enfin des ateliers de jazz, etc.
Non, ce n'est pas encore fréquent, mais il y a quelques expériences, notamment dans la région, qui montrent que ça a quand même, ça a tendance à se diversifier quand même et à se multiplier, ce genre d'expérience. Je vois par rapport à... J'ai un copain à Rion qui anime un atelier de jazz depuis pas mal d'années, Yannick Chambre, un copain pianiste. Ouais. Alors lui, il est prof, mais c'est un très bon pianiste avec qui je joue aussi de temps en temps. Il y avait un département aussi à Clermont.
Je crois à Vichy aussi.
Alors à Vichy, oui. Mais il n'y a pas d'intervenant, en fait. C'est interne. Mais bon, dans les écoles, on a tendance à... C'est un peu le cahier des charges aussi, que ce soit en jazz ou dans les musiques périphériques ou les musiques actuelles, comme on dit. On essaie de diversifier le jeu d'ensemble et de proposer des choses pour motiver les élèves, pour pas ne prendre que des cours théoriques, mais aussi faire un jeu d'ensemble et faire plus de pratiques, enfin en tout cas un peu plus de pratiques que de théorie.
Et donc, est-ce qu'il y a une typologie d'élèves pour le contrebasse, de la personne qui s'intéresse à cet instrument plutôt que le saxophone ou la trompette? Est-ce qu'il y a...
En fait, dans tous les cas, il faut quand même, pour intégrer un département de jazz, il faut avoir passé quelque temps sur l'instrument. Parce que forcément, on va être confronté au souci du débutant, placement des doigts, des choses très basiques.
Oui.
Et donc, il faut au préalable avoir pris des cours d'instruments, tout simplement. Mais que ce soit des cours de classique, que ce soit des cours théoriques de n'importe quel style, peu importe. Mais en tout cas, il faut un bagage instrumental. C'est mieux d'avoir un petit bagage aussi théorique et harmonique, je dirais,
de solfège ou de... Oui.
Encore que
Est-ce qu'il faut être lecteur
Non, pas forcément. Alors évidemment, c'est là qu'on peut faire effectivement la distinction entre les instruments. Moi, je peux très bien accepter, et je l'ai fait dans le passé, des bassistes qui ne sont pas lecteurs du tout.
Alors on précise que lecteur, non lecteur, on parle de gens capables de lire une partition ou pas.
Voilà, des connaissances de solfège. Alors c'est plus difficile pour les instrumentistes qui vont faire le thème, qui vont faire la mélodie principale. Si on parle de flûte, saxophone, trompette, quand ils vont arriver dans un ensemble... S'ils ne connaissent pas le solfège, ça va être beaucoup plus long pour eux de s'intégrer dans le groupe. L'avantage du solfège, la connaissance, même une connaissance quand même basique, quoi, c'est qu'ils peuvent jouer le thème parce qu'on ne va pas proposer des morceaux trop compliqués non plus. Donc s'ils ont un minimum de connaissances solfégiques, flûtistes, trombonistes, trompettistes vont pouvoir s'en sortir en lisant les thèmes quoi, proposés. Le bassiste, moi j'en ai eu dans le passé, qui connaissait pas une seule note de musique, enfin qui ne pouvait pas lire les partitions, mais qui mémorisait à l'oreille, qui mémorisait aussi les positions du doigt sur le manche, et donc j'arrivais à lui faire faire quelques morceaux. Voilà, en écrivant les notes sur le papier, mais des notes avec des lettres, quoi.
Oui.
En fait, on arrive, puisqu'il y a un chiffrage, le chiffrage américain.
Oui, oui.
Où A, B, C, D, E, F, G.
Oui, au lieu de dire Do, Ré, Mi, c'est C, D, E.
Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on construit les grilles des standards de jazz. Et donc, on peut visualiser comment est construit un accord en voyant ces lettres-là qui sont associées alors après à des 13e, des 9e, etc.
Ah oh oui, des 7e diminuées, voilà. Des machins.
Donne,
oui,
on regarde cette lettre et ses quelques chiffres autour et on sait de quoi l'accord est constitué. Avec un petit peu d'habitude, hein. Ça ne vient pas tout de suite, mais avec un petit peu d'habitude. Et le bassiste qui ne connaissait pas le solfège avait recours à ça et il finissait, après quelques mois dans le groupe, il finissait par pouvoir jouer un morceau en visionnant les lettres sur le papier, sur la grille. Mmh. Et il arrivait à s'en sortir avec les quelques conseils que je lui avais donnés sur les gammes, les arpèges, les notes à privilégier, etc. Mmh.
Alors, on va parler de votre masterclass, là, parce que vous avez assuré une masterclass au Jazz Club de Clermontois.
Oui, oui.
Dans le cadre de International Jazz Day.
C'est ça.
Et on va... Donc, une masterclass, déjà, c'est quoi? Parce que vous donnez des cours toute l'année. Donc, une masterclass, c'est autre chose.
Et je dirais même que les cours, entre guillemets, que je donne, c'est des cours au sein d'un groupe, c'est-à-dire c'est des cours collectifs. Donc là, on est hors du cadre du cours individuel classique, je dirais. Mais effectivement, on est là, nous, pour essayer de donner les bons conseils au bon moment. Mmh. Et en fait, la masterclass... une classe de maître, déjà la traduction me fait un peu bizarre.
Alors, c'est-à-dire
je ne me prends pas pour un maître, je tiens à le préciser.
Il y a le maître qui transmet ses connaissances, mais aussi ceux qui veulent maîtriser l'instrument forme le public.
Enfin, en tout cas, ça s'appelle comme ça.
Oui.
Mais voilà, la masterclass, en fait, bon, on est censé, apporter un petit peu d'éclaircissement et de lumière à ceux qui en ont envie, enfin, ou besoin. Et on transmet la connaissance avec nos moyens. Hein. Moi, je ne suis pas non plus le meilleur des instrumentistes et le meilleur des pédagogues, mais en tout cas, on essaie de faire de façon authentique, de façon assez le plus sincère possible, je crois, j'ai envie de dire, nos connaissances, ce qu'on sait faire, donc là, plus précisément en matière d'improvisation.
Alors là, c'est Cindy, on a vu, hein, c'est le grand hantise.
La grande hantise, oui.
Des musiciens qui veulent découvrir et pratiquer le jazz, c'est une source d'angoisse. Hein, tout le monde en parle. Ouais. Voilà.
C'est angoisse, c'est dommage, il faut que ce soit un plaisir.
Oui. C'est un peu comme quand on apprend à nager, on ne veut pas plonger dans la piscine, surtout dans la partie profonde de la piscine.
Oui.
mais une fois qu'on a fait, on a envie d'y retourner. Peut-être c'est un peu comme ça l'improvisation, il faut le faire pour l'aimer.
Oui, et puis il faut le pratiquer beaucoup. J'ai envie de dire qu'avant d'attendre quoi que ce soit d'un master, un coach, un prof ou quel que soit son nom, la seule condition, c'est de vraiment pratiquer.
Donc, les personnes qui viendraient à une masterclass sont des personnes qui ont déjà un certain niveau. Ça ne s'adresse pas aux débutants.
La masterclass que j'ai faite, il y avait des instrumentistes, je dirais presque débutants, mais qui assistaient. Et parce qu'ils ont, honnêtement, ils sont venus me voir, ils m'ont dit, moi, ça m'intéresse, j'ai pas le niveau pour faire cette masterclass, mais est-ce que je peux assister? Ben, bien sûr, oui, au contraire, voilà. Mais assister pour avoir quelques clés,
pour progresser.
Voilà, quelques points de départ pour le travail à futur. Donc, mais en fait, ce qui est un peu délicat, c'est quand il y a une grande différence de niveau, effectivement.
Entre les participants.
Parce que la masterclass, voilà. Suppose que, en général ça dure une journée, deux demi-journées, suppose qu'on fasse des exercices, qu'on propose des morceaux, qu'on parle de théorie, qu'on fasse essayer jouer chaque instrumentiste. Donc c'est parfois difficile de s'adresser à la fois aux débutants et à ceux qui sont un peu confirmés. Mais donc on s'adapte, c'est un peu le propre de masterclass, c'est-à-dire que la personne qui vient intervenir doit s'adapter à chaque fois parce qu'on n'a pas connaissance du niveau de ceux qui vont participer la plupart du temps. Pour la masterclass, c'était le 30 avril, je crois.
Oui, quelque chose comme ça.
Organisé par le Jazz Club de Clermont, j'avais un groupe qui rassemblait à peu près une quinzaine, 12-15 personnes. Et les niveaux n'étaient pas complètement différents. Donc c'était assez agréable. Des gens qui aimaient le jazz, qui avaient écouté pas mal de jazz, qui avaient commencé à improviser. Donc certains avaient improvisé quand même depuis quelques temps, déjà pas mal de temps, d'autres un peu moins. Et donc après, il faut essayer de voir de cibler des exercices qui peuvent concerner un peu tout le monde.
Alors, qu'est-ce que on vient à masterclass, quel genre de questions est-ce que les participants vous posent? Parce qu'ils viennent pour savoir comment vous faites pour jouer si bien. Quel est le secret de votre talent, etc. Vous allez dire que c'est des heures et des heures de travail.
Oui, de toute façon, oui. Hélas. Dans tous les cas, oui. tous les cas, oui. C'est comme un sportif. On ne peut pas devenir performant dans un domaine sans y passer des heures et des heures. Ça semble évident. Les questions qu'on me pose le plus souvent, c'est quelle note je joue, quelle gamme je prends, quelle...
Oui.
C'est ça, c'est la question précise.
On veut une solution rapide.
Qu'est-ce que je dois jouer sur cette histoire? Qu'est-ce que je dois jouer? Et bien, c'est là qu'on rentre dans le détail des gammes, des arpèges parfois. Chez mes bassistes, c'est vraiment passé par là. On entend souvent ce discours-là, mais c'est toujours valable. C'est les gammes, les arpèges. Il faut vraiment connaître ça le mieux possible. Commencer par les arpèges, déjà, je parle du bassiste, mais peut-être aussi pour les autres instruments. Ça limite le nombre de notes à mémoriser. On peut déjà s'en sortir en ayant un groupe de notes, même limité, par accord.
Il suffit de deux, même.
Oui.
Parfois, oui.
Et parfois, on peut construire des choses rien qu'avec ce petit noyau de notes. Et après, c'est évolutif, forcément. Alors, il ne faut pas donner une gamme complète d'entrée et puis dire, il faut que tu places tes 8 notes de la gamme, là, dans un accord, dans une mesure qui va durer
sur une mesure.
2 secondes.
Oui.
Donc, c'est un peu compliqué. Donc, il faut commencer vraiment à son niveau et pratiquer. Oui, c'est ça, vraiment pratiquer, parce que c'est là qu'on commence, qu'on a des clés, qu'on commence à vraiment à mémoriser les intervalles. Parce qu'il y a à la fois la théorie, c'est-à-dire les notes à savoir dans la gamme, dans l'arpège, mais cet apprentissage va donner naissance à on va se rendre compte qu'on va anticiper et qu'on va réfléchir plus par intervalles, qu'on va entendre les intervalles entre... les intervalles de tierces, etc., entre de sixtes, enfin de... Et ça, c'est intéressant parce que plus on va entendre ça, plus on va connaître ses notes sur son instrument. Et vice-versa, je vais dire. En fait, tout ça est vraiment lié. Et c'est pour ça que la pratique, il n'y a que ça de vrai. Les cours, c'est une partie, mais pour moi, une partie moins importante que la pratique elle-même. La pratique va faire en sorte qu'on va mémoriser les intervalles, la théorie, les intonations, les nuances, enfin tout ça va se mettre en place petit à petit. Mais ça fait tellement de composantes, tellement d'ingrédients à réunir en même temps que la théorie ne peut pas
Effectivement, pour quelqu'un qui débute, ça doit sembler énorme de connaître tout ça, de maîtriser tout ça, de mémoriser tout ça, mais avec le temps.
Oui, c'est ça. Oui.
C'est une question de temps. Oui.
Mais je constate quand même que dans les ateliers, par exemple, on a le temps, comme c'est toutes les semaines, on a le temps de voir les évolutions. Et on a vu évoluer bon nombre de débutants ou de gens qui venaient de la musique classique, par exemple, qui n'avaient jamais improvisé. Cette évolution est très intéressante parce qu'au bout de quelques temps, avec le petit noyau de notes qu'on leur donne ou alors les exercices plus simples, ils arrivent à prendre du plaisir à improviser. Donc on peut faire des choses simples. L'improvisation, ce n'est pas forcément synonyme de phrases compliquées ou de choses rapides ou denses. C'est déjà un plaisir de faire ça, en fait, pour certains, d'arriver à faire ça.
Oui, c'est vrai qu'au départ, on a cette fausse idée que quand on va faire un chorus, il faudrait jouer très vite et plein de notes. Et en fait, quand on écoute des grands musiciens, bon, vous avez cité Miles Davis tout à l'heure, qui a un style d'improvisation extrêmement épuré, avec très peu de moyens qui arrivent à susciter une émotion, de créer une ambiance. Oui. Et c'est ça le top, finalement.
Oui, on conseille souvent à nos amis trompettistes, ou même chanteurs, ou autres d'ailleurs, oui, d'écouter Chet Baker, par exemple. Oui. Quand on écoute une improvisation de Chet Baker, soit à la trompette, soit quand il chante, en fait, on est absolument sûr qu'il n'est pas dans la performance, mais dans la recherche de la belle note, de la mélodie.
Oui, c'est très délicat.
C'est pour ça qu'on leur conseille d'écouter ça, parce que là, on n'est plus dans la recherche de performance, on ne va pas utiliser les gammes absolument, un maximum de notes au mètre carré. Non, c'est des gens comme ça font vraiment ressentir ça. C'est que leur choix, c'est vraiment quelque chose de très musical et souvent épuré, effectivement. C'est ce que j'aimais bien chez, par exemple, le contrebassiste Charlie Haddon. Mm-hmm. Qui était aimé de ses pairs, qui jouait 3 fois plus vite que lui, ou 10 fois plus vite, parce que lui savait jouer de la contrebasse sans jouer rapidement, et je pense qu'il était capable de le faire, c'est pas le problème, mais tous ses solos étaient très épurés, très aérés, et il avait le temps de choisir la note qu'il voulait absolument, la belle note qu'il voulait absolument.
Oui, c'est une sorte d'élégance, on va dire, dans le,
oui,
dans
oui,
le propos. Oui. Alors, lors de votre masterclass, est-ce qu'il vous arrive de dire « Ah, j'aurais bien aimé qu'on m'explique telle ou telle chose avant, quand j'apprenais moi-même, et je vais être certain de transmettre ça aux autres parce que c'était une lacune à une époque où il y a quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard ». Et j'aurais bien aimé qu'on m'explique. Bon, il y a cette histoire de notes, de nombre de notes, etc.
Oui. Mais en fait, oui, parce que d'autant plus, moi, j'ai pas eu un parcours, je dirais, habituel, classique.
Oui.
Voilà. Donc, j'étais musicien autodidacte, donc j'ai improvisé avant de savoir ce que je faisais.
Oui.
Alors, il y a certaines imperfections, bien sûr. Mais la chose que je ne regrette pas, c'est vraiment d'avoir commencé à faire travailler mon oreille.
Mmh. Très tôt.
Voilà, oui, en fait, j'ai fait pas mal d'années d'improvisation en ayant très peu de théorie. Mmh. Alors ensuite, j'ai éprouvé le besoin de prendre des cours, et là, vraiment spécifiques au jazz. Je me suis demandé si ça n'avait pas été un handicap, justement. Mmh. Je me suis dit, est-ce que la théorie, ça ne m'a pas manqué de ne pas l'avoir en même temps que la découverte de ce style de musique? Peut-être un peu, mais je ne sais pas. Mmh. Franchement, je n'ai pas la réponse. Je ne crois pas qu'il y ait de parcours modèle,
oui,
type.
Oui. Pour, qui va pour tout le monde.
Non, j'entends
chacun.
Oui. Chacun doit faire son. Il faut être curieux de tout. Ce qui est important aussi, c'est d'écouter beaucoup. D'écouter, de repiquer un solo de Chet Baker, pourquoi pas. Repiquer, c'est important parce qu'on comprend ce qui se passe ensuite. Et quand on l'interprète, ça devient magique, on sait ce qui se passe, on sait quels intervalles il a utilisés, et après on peut se permettre d'analyser. Voilà, quel parcours. J'entends des musiciens qui viennent du classique, qui jouent du piano formidablement, j'entends des autodidactes, batteurs, guitaristes, qui jouent formidablement, donc il n'y a pas de... C'est l'enthousiasme la clé, c'est pas le parcours en fait, je crois.
D'accord, et le travail.
Oui, et le travail, l'enthousiasme et le travail.
Oui, hélas. Bon, on va écouter un deuxième morceau que vous nous proposez. Alors, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, vous écoutez toujours Radio Bocage. L'émission s'appelle Fréquence Jazz, le jazz raconté par ce qu'il pratique. Nous sommes en, je suis en compagnie de Cindy Kourou et Dominique Mourlet et nous allons écouter un deuxième morceau de musique.
Thank you.
Alors, nous venons d'entendre un titre, je devine, c'est Nathan Boulay Trio.
C'est ça.
Attention.
Bravo.
Bravo.
Non, mais alors pour nos auditeurs, j'ai ce disque à la maison, je l'écoute souvent. C'est très, très, très réussi. Hein. Oui, je trouve très, très réussi. Alors, ce morceau s'appelle Red Mind. L'esprit rouge.
L'esprit rouge.
Qu'est-ce que ça veut dire,
ça? Non, en fait, on parlait avec Nathan une fois de ses compositions, et puis il me disait qu'il associait des... Il voyait des couleurs, des fois,
oui.
Sur certaines... En fait, sur des accords, mm-hmm. sur des passages de musique, en fait.
Ouais.
Il associait des couleurs... C'est une chose bizarre, ça ne m'est jamais arrivé.
Oui.
Mais, et en fait, tu associes des couleurs à ça. Ah oui, j'ai des... Voilà. Et donc, sur le disque, il y a un morceau qui s'appelle Violet.
Oui, que nous avons... nous avons passé ce morceau à l'antenne.
D'accord.
Oui, quand on a commencé l'émission.
Il y en a un autre qui n'est pas sur l'album, mais qui s'appelle Yellow Dust, mm-hmm. je crois.
Poussière jaune.
Poussière jaune. Donc il a imaginé des titres en fonction des couleurs qu'il voyait.
D'accord, très bien. Alors, chers auditeurs de Moulins et des alentours, prenez bien vos agendas et notez donc le 10 décembre.
C'est ça.
Au Théâtre municipal de Moulins, grande soirée organisée par le Jazz Club Moulinois. Avec qui fête un peu le magnifique piano du théâtre, le magnifique Steinway du théâtre. Mmh. Il y aura deux propositions. En première partie, Nathan Boulay Trio, donc Nathan Boulay au piano, Dominique donc à la basse et Elvire Jouve à la batterie.
Voilà.
Et après, il y aura Fabrice Ullery, alors très connu, le grand, le roi du boogie-woogie et du piano stride, très, très, très attendu parce que son concert à Moulins était annulé à cause du Covid au tout début, c'est-à-dire il y a 3 ans à peu près. Et ce concert, donc, est très attendu. Alors, le théâtre a ouvert sa billetterie en ligne, déjà. Oui. Et si vous ne voulez pas acheter en ligne, ce qui voulait avoir réservé auprès d'une vraie personne en chair et os, alors rendez-vous à l'Office de tourisme de Moulins, où vous pouvez réserver vos places. Et ne tardez pas trop, parce qu'à mon avis, les places vont partir très, 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 très vite pour cette soirée exceptionnelle autour du piano du Théâtre de Moulins. Très, très, très belle salle, très belle salle, qui revit aussi après une période extrêmement difficile. Et les fans, à la fois de Nathan, parce que mine de rien, il faudrait peut-être arrêter de dire « Ah !» C'est la consécration, parce qu'on dit ça tout le temps depuis quelques années. Hein. Et voilà, qui vraiment, sa carrière qui s'installe, qui, avec des dates et des concerts régulièrement. Et puis, Fabrice Ullery, qui a tout un public, c'est un artiste qui remplit l'Olympia sans problème. Donc, le Théâtre du Moulin, je crois que ça va être... Ça va être vite vu. Donc ça, c'est très important, le 10 décembre.
Samedi 10 décembre.
Oui, au Théâtre de Moulins. Alors, pour ceux, Cindy, qui veut nous contacter avec des idées pour l'émission, des questions, etc., ou qui veut suivre l'émission et écouter les podcasts, comment font-ils?
Eh bien, pour ceux des podcasts, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le site de l'enseignement de l'Allier, lx03@tousattaché.org. Et si vous nous contactez, vous pouvez le faire par mail à fréquentchasse@lx03@tousattaché.org.
D'accord. Alors, je rappelle d'ailleurs que cette émission est rendue possible par la Ligue de l'enseignement de l'Allier, qui fournit tout le matériel nécessaire à l'enregistrement et une aide technique indispensable. dans la personne de Maud Bettiau, que nous saluons très chaleureusement.
Merci Maud.
Donc merci Cindy, on se retrouvera bientôt pour d'autres investigations autour du jazz. Merci Dominique, franchement c'est toujours un plaisir de vous recevoir ici.
Ben, merci, c'est un plaisir pour moi aussi.
Et on a appris plein de choses, mais du coup... Forcément, maintenant, nous repartons avec plein d'autres questions.
Oh là oui, il faudra revenir maintenant.
Il faudra revenir.
Voilà, donc merci Dominique, merci Cindy, merci à nos chers auditeurs et à très bientôt.
À très bientôt, au revoir.
Au revoir.